la semaine dernière, nous avions parlé des stratégies de développement. Nous avions parlé notamment des stratégies de développement industriel, des stratégies d'internationalisation. La plupart des stratégies de développement se déroulent à l'heure actuelle dans des logiques relationnelles. Et donc, nous allons aborder ces questions de politique relationnelle. Alors, pourquoi est-il important, quand on travaille sur la stratégie d'entreprise, de travailler sur les relations nouées entre les entreprises ? Eh bien, parce que, vous l'avez compris à travers ce cours, les économies nationales sont interdépendantes, les continents sont interdépendants sur les enjeux économiques, et au niveau des entreprises, vous avez aussi des formes d'interdépendance. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'avenir en termes de développement, l'avenir en termes de pérennité de beaucoup d'entreprises est lié à l'avenir en termes de développement et de pérennité d'autres entreprises. Donc, de plus en plus, les entreprises sont interdépendantes entre elles. Alors, comment ça peut se manifester ? J'ai repris un schéma qui avait été plus ou moins élaboré par Gérard Koenig dans un de ses ouvrages, 96. Sur ce schéma figurent les trois postures principales relationnelles qui peuvent exister entre les entreprises. La coopération, l'affrontement ou l'évitement. Si on croise ces postures, on va trouver d'autres possibilités relationnelles, d'autres stratégies relationnelles. L'entente, la distinction et la compétition. Alors, on va aborder ces questions. Et tout d'abord, on va parler de la notion de coopération. Alors, qu'est-ce que c'est que la coopération ? L'idée d'une coopération, c'est l'idée d'un projet, d'une réalisation, d'activité, qui va être effectué par plusieurs entreprises en même temps. Donc la coopération est menée par plusieurs entreprises indépendantes. Alors, on parle d'entreprises indépendantes sur les plans financiers, juridiques, managériaux. Donc ces entreprises sont indépendantes juridiquement, elles ont un statut social indépendant. Elles ont un management, une direction indépendante. Et elles sont autonomes également sur le plan des effectifs, sur le plan des technologies possédées, sur le plan du patrimoine. Qu'est-ce qui peut inciter des entreprises indépendantes à s'associer ? Et comment cela peut-il se manifester ? Eh bien, le principe est très simple, c'est le principe de la coopération, c'est l'idée que chaque entreprise partenaire a besoin de l'autre pour mener à bien le projet. Autrement dit, on peut être indépendant, mais avoir besoin de travailler avec une autre entreprise, avoir besoin de travailler avec une entreprise partenaire. C'est ce que l'on appelle la gestion conjointe d'un projet. Alors, je vais prendre un exemple de gestion conjointe. Vous avez l'entreprise A qui va travailler avec l'entreprise B. Ces deux entreprises vont par exemple créer une filiale commune qui va être possédée à 50-50 entre les deux entreprises, ce qu'on appelle le principe de joint venture, et qui formalise un partenariat ou une coopération. Dans ce cas de figure, vous voyez bien que aucune des deux entreprises ne domine l'autre. Aucune des deux entreprises n'est considérée comme responsable juridique ou hiérarchique de l'autre. Ce qui n'a rien à voir avec une forme de fusion, où vous avez par exemple les deux entreprises A et B qui fusionnent pour former l'entreprise AB, et ce qui n'a rien à voir avec un développement par acquisition, où l'entreprise A décide d'acquérir l'entreprise B pour former l'entreprise A en intégrant B. Acquisition de B par A, fusion de A et B, et ici coopération entre A et B. Donc la coopération, c'est une situation où les deux entreprises conservent leur indépendance juridique, managériale, etc., mais partagent en commun un projet. Ici, ce projet commun consiste à créer une filiale commune et à gérer une activité qui intéresse les deux entreprises. Alors je vais prendre un exemple concret. Si je vous dis CGTEL, vous connaissez CGTEL ? Si je vous dis la SNCF, vous connaissez SNCF ? Pourquoi ces deux entreprises sont-elles partenaires ? Et pourquoi ont-elles une filiale en commun ? Oui, un réseau optique à haut débit qui circule le long des rails et qui permet de relier les centres urbains, effectivement. Donc c'est pas du ferroviaire, mais ça appartient à SNCF et c'est exploité par CGTEL qui en a besoin pour des applications télécom. Donc là, il y a un partenariat qui s'est instauré entre oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Vous avez 20 minutes de retard, vous pouvez m'expliquer ? Oui. Non, bah écoutez, vous repartez, je vous accepte pas en amphi. Et je suis d'autant plus désolé que quand je suis arrivé en amphi, je vous ai vu partir dans l'autre direction. Merci. Attendez. Je sais que j'ai une montre qui n'est pas très précise, mais on est plus près de 20 que de 10. Bien, enfin peu importe. Le cours en amphi, ce n'est pas une obligation. C'est une chance. Oui, c'est une opportunité. Alors, je reprends l'exemple de SNCF CGTEL. Et il est évident qu'à travers cette filiale, qu'est-ce qui va se passer? Cette filiale va servir de support technique pour concurrencer notamment France Télécom ou Bouygues Télécom, etc. Et donc il va y avoir des revenus qui vont être dégagés par cette filiale et reversés à hauteur de 50% pour A et à hauteur de 50% pour B. Alors, cet exemple concret montre que les deux entreprises ont besoin mutuellement de l'autre. Chaque entreprise a besoin mutuellement de l'autre. Pourquoi? Parce que CGTEL a besoin des réseaux technologiques de la SNCF, et SNCF a besoin du savoir-faire d'exploitation télécom et de services télécom de CGTEL. Et donc, il y a une complémentarité. Et la base de la coopération, c'est valoriser, mettre en valeur cette complémentarité. S'il n'y avait pas de coopération, eh bien, SNCF ne pourrait pas exploiter son réseau à haut débit et CGTEL ne pourrait pas développer sa couverture territoriale. Donc les deux entreprises ont un intérêt stratégique à s'associer. Et d'un autre côté, est-ce qu'on pouvait entrer dans une logique de fusion? Non, parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt d'un groupe qui serait constitué sur la base du ferroviaire et des télécoms. Pourquoi faire fusionner CGTEL et la SNCF? Ça n'a pas de sens industriel ni commercial. Et que l'une rachète l'autre, ce n'était pas non plus quelque chose d'envisageable. Donc, on entre dans une logique de coopération, c'est-à-dire de communauté d'intérêts. Les entreprises partagent une communauté d'intérêts. Elles vont échanger des ressources, combiner des savoirs et exploiter ensemble un projet. Ça ne peut fonctionner, ce principe de coopération ne peut fonctionner qu'à partir du moment où la relation se déroule sous un angle gagnant-gagnant. C'est-à-dire, il faut que le projet commun profite à la fois aux intérêts stratégiques de B et aux intérêts stratégiques de A. Si, dans ce projet, CGTEL est la seule entreprise à dégager des ressources, la coopération ne durera pas longtemps. Donc il faut que la SNCF aussi profite et ait un intérêt stratégique pour la coopération. C'est ce que l'on appelle le principe gagnant-gagnant. Donc la coopération dure tant que chaque acteur partenaire dans la coopération en tire un bénéfice. Autrement dit, on partage des ressources, ce qui permet ici d'accroître le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires pour qui? Eh bien, ça accroît le chiffre d'affaires à la fois pour CGTEL et à la fois pour la SNCF. Ça accroît les revenus à la fois pour CGTEL et pour la SNCF. Et aucune entreprise n'aurait pu le faire seule. Mais elles réunissent leurs compétences et elles peuvent dégager un surcroît de chiffre d'affaires. Et comme le partage est équitable, ici à 50-50, la coopération peut durer. Donc il y a cette idée aussi d'enjeu équitable. Bon, au-delà de ça, cette coopération permet d'une certaine manière dans... ça permet quoi? Pour la SNCF, ça lui permet de diversifier ses sources de revenus et d'avoir des sources de revenus également dans les services télécoms et non pas uniquement dans le transport passager. Et pour CGTEL, ça lui permet de dresser des barrières à l'entrée du secteur des télécoms qui sont plus importantes parce que la couverture territoriale est plus forte. Donc les deux entreprises ont des enjeux stratégiques différents mais qui se rejoignent. Pour SNCF, c'est la diversification et pour CGTEL, c'est grossir en taille et introduire des barrières à l'entrée du secteur.
Monsieur.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'une filiale est créée suite à une coopération seulement?
Pas toujours, hein. Ça ne se manifeste pas toujours par la création d'une filiale. Vous pouvez avoir, dans certains cas, des échanges de ressources ou de personnel ou des transferts de technologie ou de savoir sans qu'il y ait nécessairement création d'une filiale commune. D'accord ?
Oui, mais pour une filiale en tant que telle, est-ce que c'est toujours suite à une coopération ?
Attendez, j'écoute la question de votre camarade. Vous avez une question à poser ?
Oui, en fait, on n'a pas très bien compris la filiale, c'est quoi son activité ?
Alors, bon, attendez, donc je réponds d'abord à votre camarade, chacun écoutant mutuellement les questions. Alors.
Moi, ma question ?
Oui.
Oui, c'était pour savoir si une filiale, chaque fois qu'il y a une filiale, ça veut dire que c'est suite à une coopération.
Non, ce n'est pas obligatoire. Une filiale, A peut créer très bien une filiale de façon isolée, B peut très bien créer des filiales. La filiale, quand on parle de filiale, ça veut dire que c'est un groupe qui possède majoritairement des capitaux dans une autre société. Et comme les résultats sont consolidés, parle de filiale, c'est-à-dire juridiquement et financièrement, elle est rattachée au groupe. Mais vous pouvez avoir des groupes, si vous prenez Bouygues possède des centaines de filiales qui ne sont pas gérées dans le cadre de la coopération. D'accord ? Donc coopération et filiale ne sont pas associées. Mais quand vous nouez une coopération, dans certains cas, vous pouvez créer une filiale conjointe, c'est-à-dire dont vous partagez la propriété avec un ou plusieurs partenaire. C'est-à-dire que vous formalisez la coopération sous cet angle. Alors, maintenant, on va répondre à la question de vos camarades du haut, mais il ne faut pas hésiter à me la poser. Hein. Cette filiale, j'ignore le nom, je ne me souviens plus du nom, c'est un nom technique, c'est peut-être SNCF Télécom ou je ne sais quoi. Elle est chargée de quoi ? Elle est chargée de la maintenance, de l'entretien du réseau de fibres optique et de collecter les revenus liés au transfert de données sur ce réseau. Pourquoi ? Parce que CGTEL a un réseau très étendu qui va passer pour partie par la SNCF et pour partie par des liaisons que CGTEL possède en propre. Donc tout le problème, c'est de savoir à quel moment un service téléphonique transite par les fibres optiques de la SNCF. Chaque fois que c'est le cas, il faut que la filiale puisse l'identifier et faire remonter une partie des revenus aux deux entreprises. Et puis assurer l'entretien et la maintenance de ce réseau. Donc on peut imaginer que dans cette filiale, on va avoir des ingénieurs de CGTEL pour interconnecter les fibres optiques avec le réseau de CGTEL, et puis des ingénieurs de SNCF sur l'entretien et la maintenance des lignes. Donc on va avoir des considérations à la fois techniques et commerciales. Mais la filiale, elle est chargée uniquement de gérer, d'exploiter cette partie du réseau pour le compte de CGTEL et sur le réseau ferroviaire de la SNCF. D'accord ? Bon, alors, des coopérations. Oui, mademoiselle. Des coopérations, il en existe des centaines, de milliers. Là, je vous ai donné un exemple. Je suis sûr que vous en avez en tête de nombreuses. Par exemple, si je vous posais dans un test, je vous dis, donnez-moi un exemple de coopération. Expliquez-moi quels sont les avantages compétitifs recherchés par les partenaires, comment ils se déroulent, vous allez trouver des centaines d'exemples.
Hein?
Alors, on va aborder un peu plus cette question. Qu'est-ce qu'il existe comme type de partenariat. Eh bien, vous pouvez avoir, ou de coopération, vous pouvez avoir des coopérations verticales, horizontales ou transversales. Verticales, ce sont des coopérations le long d'une chaîne de valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plusieurs entreprises vont partager ce qu'on appelle une complémentarité verticale, parce que elles vont être, leur activité va être liée pour créer de la valeur ajoutée pour le client à l'intérieur d'une seule et même chaîne de valeur. Exemple, un partenariat entre un producteur et un distributeur. Alors, on parlera de partenariat si et seulement si la relation échappe à une logique de sous-traitance classique ou de contrat sur un marché. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre un producteur et un distributeur? Ça peut être, par exemple, ce qu'on appelle le... J'ai plus le terme technique en tête, mais c'est par exemple le distributeur qui va demander au producteur de réaliser des emballages particuliers, des emballages de forme carrée ou rectangulaire, pour conditionner le produit. Pourquoi ? Parce que ça permet, en termes de logistique, de réduire les coûts et surtout de présenter davantage de produits dans les linéaires, en face des yeux du consommateur. Dans ce contexte-là, c'est-à-dire que le producteur va travailler réellement en partenariat avec le distributeur, parce que le distributeur va s'engager à référencer le produit à partir du moment où le producteur va s'engager à concevoir des packagings adaptés aux besoins de la distribution. Et donc, il n'y a plus de logique de mise en concurrence, d'appel d'offres, etc. Là, on est dans une logique où gagnant-gagnant, donnant-donnant, chacun travaille avec l'autre et chacun apporte à l'autre un complément dans l'élaboration du produit. Donc le produit va être finalement co-défini à la fois par le producteur et le distributeur. Ça n'a rien à voir avec un contrat de sous-traitance. Un contrat de sous-traitance, c'est je suis producteur, je fais un produit, ensuite je demande au distributeur combien demande pour référencer le produit, je signe un contrat, je paye la facture de distribution et il distribue les produits tels que je les ai conçus. Si on est dans la coopération, je vous expliquais, c'est différent. Vous avez en amont une relation de co-conception, une relation de confiance qui peut s'établir et s'instaurer. Alors, vous pouvez avoir aussi de la coopération dite horizontale. Cette fois-ci, c'est de la coopération entre concurrents. Alors, la coopération entre concurrents, on en parlera tout à l'heure, ça rejoint le phénomène de coopétition. La coopétition. Donc, qu'est-ce qui peut pousser, peut-être avant de. Qu'est-ce qui peut pousser des concurrents à se regrouper et à s'associer ? Vous avez notamment. La recherche d'économies d'échelle liée à l'augmentation en taille. Vous prenez plusieurs PME qui sont en concurrence pour la vente de leurs produits. Chacune, à son niveau, n'a pas la taille suffisante pour diminuer les coûts de production de façon importante. Donc, elles ont toutes intérêt à se regrouper pour diminuer les coûts. C'est l'exemple de la coopérative agricole. Prenez une région viticole, vous avez des agriculteurs indépendants, ils vont regrouper leur production dans une coopérative, partager les frais de fermentation, de récolte, de mise en bouteille, quitte ensuite à se retrouver concurrents sur le marché avec des étiquettes séparées. Seulement, ils auront bénéficié de l'effet de taille et du partage des coûts. Pourquoi ? Parce que investir pour l'achat de cuves pour 10 plantations viticoles, c'est pas du tout la même chose que d'acheter une cuve par plantation. Donc, premier élément, ça peut donc être un enjeu stratégique pour atteindre une masse critique, sans pour autant faire l'objet d'une fusion ou d'une acquisition. Donc, autrement dit, sans perdre l'indépendance, sans perdre l'autonomie. Alors, est-ce que c'est important d'être compétitif et autonome ? Eh bien, quand vous êtes patron d'une petite entreprise de 10 ou 50 personnes, c'est important de maîtriser les coûts comme une multinationale, mais sans forcément être racheté et sans perdre votre indépendance de décision. D'accord ?
Monsieur ?
Oui.
Est-ce que le quartel peut être considéré comme une forme de coopération ?
J'ai pas entendu.
Le quartel.
Le
quartel.
Le quartel ?
Oui.
Le cartel ?
Oui, cartel. Ou est-ce que le cartel peut être considéré comme une forme de coopération ?
Le cartel ?
Oui, l'entente illicite comme le cas de SFR et Bouygues.
Vous voyez, c'est pas passé au même endroit, hein, sur Boucher. On en parlera. Mais l'entente illicite et la coopération, c'est différent.
Oui, parce que c'est des concurrents.
C'est une forme. L'entente, c'est une forme de coopération dans l'évitement de la concurrence. Là, pour le moment, je reste sur le volet coopération pure. En considérant que la coopération, ça permet d'obtenir un avantage compétitif. C'est pas pour masquer la compétition, c'est au contraire pour être plus fort dans la compétition. On est plus fort à plusieurs qu'en étant seul, dans certains cas. Et je suis en train d'expliquer les différents cas. Ouais. Lorsqu'on peut mettre en valeur des complémentarités verticales ou des complémentarités horizontales. Par exemple, vous voulez faire de la recherche et développement. Quelles sont les entreprises qui ont en interne une cellule de recherche et développement ? Ce sont des très grandes entreprises qui peuvent amortir les frais de recherche et développement sur des revenus très importants. Donc le seul moyen pour des petites entreprises de se doter d'un laboratoire de recherche et développement, c'est de partager les frais avec d'autres petites entreprises. Donc vous prenez dans les secteurs de la biotechnologie, vous avez des entreprises très spécialisées qui vont partager les investissements de recherche et développement à plusieurs. Ça permet donc aussi... par exemple, si vous devez entrer sur un nouveau marché que vous ne connaissez pas, eh bien, ça permet, en vous associant avec d'autres entreprises, de partager les risques d'exportation et d'investissement. Et là aussi, la coopération se justifie. Pourquoi ? Parce que entre assumer seul tous les risques d'investissement ou partager les risques et les gains liés à l'investissement, eh bien, pour beaucoup d'entreprises, il est parfois plus intéressant d'entrer dans une logique de partage. Ça permet d'aller plus vite, de maîtriser les risques et d'être plus compétitif. Alors vous allez me dire à quel prix ? Bah, c'est bien. Ce qui n'est pas évident, bien sûr, quand on parle de coopération, c'est la façon dont on va gérer la coopération. Pourquoi ? Parce que vous avez des entreprises qui ont des dirigeants différents. des actionnaires différents, des clients différents. Comment parvenir à trouver un compromis? Comment définir l'orientation du projet si on a des enjeux différents et si on est indépendant? Qu'est-ce qui peut pousser la SNCF à agir dans l'intérêt de CGTEL si la SNCF ne le veut pas? Et qu'est-ce qui peut pousser CGTEL à agir dans l'intérêt de la SNCF si CGTEL ne le souhaite pas? C'est toute la difficulté, c'est que la coopération sur le papier, c'est très intéressant. Vous regroupez les ressources, vous partagez les risques. Mais comment vous arrivez à manager cette coopération, à mixer des équipes, à marier deux cultures d'entreprises différentes? Prenez CGTEL, c'est le champion du marketing et de l'approche marché avec un grand renfort de publicité, etc. Prenez la culture d'entreprise de la SNCF, ancien monopole public. On est vraiment dans des cultures d'entreprise opposées. Et pourtant, ça fonctionne. Donc ça, c'est au prix d'efforts de management, d'organisation très importants. Et bien sûr, vous comprenez bien que cet édifice est extrêmement fragile. D'accord ? Cet édifice est extrêmement fragile. La coopération n'est pas nécessairement destinée à durer éternellement. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans une logique. CGTEL et SNCF, on serait plutôt dans une logique effectivement de coopération un peu transversale, c'est-à-dire d'un secteur d'activité à l'autre. Et donc en recherchant des complémentarités d'un secteur d'activité à l'autre. Ici, on serait dans une logique à l'intérieur d'un même secteur d'activité, d'une même chaîne de valeur, et là, on serait sur un maillon de la chaîne de valeur. Alors, donc, la coopération transversale, qu'est-ce que l'on va rechercher? Eh bien, par exemple, pour la SNCF, elle possède un réseau d'infrastructures qu'elle peut valoriser et exploiter sous l'angle transport de passagers, sous l'angle transport de données de télécommunications. Donc ça lui permet de diversifier ses activités, donc de limiter les risques liés aux investissements de réseau. Ça lui permet aussi d'acquérir des compétences apportées par le partenaire qui peuvent être utiles peut-être dans un autre contexte. Si par exemple la SNCF a des efforts à faire dans le domaine marketing, peut-être qu'au contact de CGTEL, elle pourra progresser davantage dans ce domaine. Et puis ça permet d'amortir plus rapidement, donc comme je l'ai dit, les investissements en frais fixes pour la SNCF liés à la construction ou à la maintenance de ces réseaux sur différents produits, sur différents marchés. Alors, l'intérêt numéro un. Du partenariat transversal, c'est à un moment ou à un autre d'arriver à définir, pourquoi pas, une logique de réseau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une logique de réseau? Eh bien, je vais faire un petit schéma, vous allez comprendre l'intérêt de la logique de réseau, et je vais vous définir ce qu'est une logique de réseau. Alors, on va prendre deux secteurs d'activité, le secteur numéro 1 et le secteur numéro 2, et on va prendre différentes activités, des activités de conception, production, exploitation. Une entreprise qui se trouve ici. Je prends cette entreprise, je prends l'entreprise qui se trouve ici. Quelles sont ses opportunités stratégiques de développement? Principalement, elle a deux opportunités stratégiques de développement. Première opportunité stratégique de développement, c'est ce que j'ai appelé l'intégration verticale. Elle va racheter des firmes de production, d'exploitation, à l'intérieur de son secteur d'activité. Deuxième possibilité de développement, elle va faire de l'intégration horizontale et racheter d'autres concepteurs dans d'autres secteurs d'activité, des concurrents ou des entreprises qui possèdent des compétences analogues dans d'autres secteurs d'activité. Oui. Une
matrice de découverte.
Je ne sais pas ce que c'est la matrice de découverte. C'est une matrice que j'ai inventée, ça. Donc, ne vous inquiétez pas.
En fait, on l'a demandé en TD.
Comment ?
On l'a demandé en TD.
Oui, ici, c'est un cours d'amphi. Hein.
Non, mais
comment ?
On a demandé du TD, c'est la matrice dans un cas, et ça
Je ne sais pas du tout ce que c'est la matrice de découverte. Donc je vous l'avoue très humblement, si je vous parle de cela, ce n'est pas pour vous parler de la matrice de la découverte ou du palais de la découverte, c'est pour vous expliquer très concrètement.
En tant qu'étudiant, c'est notre devoir de faire le rapport entre les concepts.
Bien sûr, c'est à vous de me le dire d'ailleurs à la fin, si ça ressemble ou non à la matrice de la découverte, que vous connaissez sans doute mieux que moi. Bien. Donc. Deux possibilités donc de développement, l'intégration verticale et l'intégration horizontale. Quels sont les inconvénients à chaque fois? Ce sont des investissements pour la plupart irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez racheté des compétences ou des firmes, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous êtes obligé de gérer ces entreprises et ces nouvelles compétences. Donc vous prenez des risques supplémentaires en cas de retournement de conjoncture parce que vous devez gérer des frais fixes beaucoup plus importants. Et puis vous vous engagez sur des secteurs ou des activités nouvelles dont vous n'êtes pas censé maîtriser tous les paramètres. Et puis il existe donc une autre manière de fonctionner, c'est celle qui consiste à dire, par exemple, sur un projet, voilà, ce projet numéro 1, on va nouer des relations de partenariat et on va travailler, par exemple, sur ce projet numéro 1. Puis, cette entreprise peut très bien avoir envie de travailler avec ces deux sociétés et celle-ci dans un projet numéro 2, avec donc d'autres accords de partenariat. On voit donc se dessiner au fur et à mesure de ces accords de partenariat, une forme de réseau d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui restent indépendantes, qui ne se rachètent pas les unes les autres, mais qui ont pris l'habitude de travailler ensemble dans des accords de coopération. Alors, quel est l'intérêt de ce fonctionnement en réseau, ça évite d'avoir des investissements irréversibles. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le projet est terminé, eh bien, vous avez les relations de partenariat qui disparaissent et les entreprises qui sont toujours présentes. Donc, vous avez des économies de frais structure, des économies d'intégration, vous n'êtes pas obligé d'intégrer pour profiter des avantages de spécialité. Vous avez des économies de coûts de transaction. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas chercher les partenaires ici sur un marché, vous allez les chercher dans un réseau, c'est-à-dire avec des entreprises que vous connaissez, dans lesquelles vous avez confiance.